Nous avons aujourd'hui à nous demander quelle est la fin de l'histoire. Est-ce que c'est un terme? Est-ce que c'est un bout? Ou bien est-ce que c'est la finalité de l'histoire, c'est-à-dire son sens profond? Je dois encore revenir sur deux choses. D'abord, on m'a posé la question de la réalité et même de la personnalité du Satan. J'ai toujours l'habitude de dire que l'ange, ou le démon si vous voulez, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même catégorie, l'ange est un peu comme le facteur. C'est un messager dont j'ignore la vie privée. Je ne peux pas dire ce qu'est la personnalité d'un ange. Je sais qu'il a une personnalité par rapport à Dieu et par rapport à moi. Je sais un peu quelle est ma personnalité, je ne sais pas très bien quelle est celle de Dieu, et celle de l'ange m'échappe également. Alors, le mal dépersonnalise, le bien au contraire personnalise. Et c'est un peu ce qu'a voulu dire, semble-t-il, Saint Jean quand il met finalement ce Satan, c'est-à-dire l'obstacle, tout ce qui fait obstacle à notre relation avec Dieu, que le Satan est finalement jeté dans l'étang de feu, c'est-à-dire dans le dépotoir général. Je vous donne simplement une petite phrase de Urs von Balthasar, le théologien, qui conclut sa réflexion sur l'éternité de l'enfer en affirmant qu'on ne peut concevoir un contraste plus grand que celui qui existe entre l'éternité de la vie éternelle, qui sera un déploiement sans limite, et l'éternité de la damnation, qui serait une rétraction jusqu'à présent, jusqu'à un présent immobile. Ce serait comme une immobilité. Mais ce sont des vues de l'esprit, nous ne pouvons pas dire concrètement ce que ça signifie. Quant à Satan, s'il paraît être une force qui dépasse l'homme plus qu'un être personnel, cela s'explique, tandis que l'amour fait devenir de plus en plus personnel, la haine dépersonnalise, car la personne est relation, et la haine tue la relation. Mais le théologien conclut en approuvant son collègue protestant Karl Barth, on ne doit pas élaborer une doctrine du démoniaque, car l'homme n'a pas vocation à scruter avec curiosité les ténèbres de l'enfer, mais à lever les yeux vers le Dieu rédempteur pour lui rendre grâce. Et donc, les peurs qui peuvent exister à ce niveau-là sont inopérantes, parce que c'est Dieu que nous avons à regarder. Et si nous le regardons, le reste n'a plus de sens pour nous. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que l'idolâtrie, non pas l'idolâtrie des autres, mais notre propre idolâtrie, et il y en a beaucoup dans nos vies, et que cette idolâtrie, elle finira par disparaître. Quand on reçoit un cadeau, généralement, on finit par jeter l'emballage. C'est un peu comme cela. Nous avons à jeter l'emballage et souvent, nous empaquetons notre foi profonde à travers des emballages qui, eux, doivent disparaître. Ce sont des emballages idolâtres qui ne sont pas vrais et qui sont, comme le dit le texte de l'Apocalypse, mensonges. Nous devons voir maintenant un chapitre qui est bien sûr la finale de l'Apocalypse, que beaucoup considèrent parfois comme un happy end, mais qui n'est pas exactement cela. Pour les étudiants réguliers qui suivent d'autres séminaires, nous sommes exactement au même point que dans la dernière partie du livre d'Isaïe, pour ceux qui suivent le séminaire du prophétisme, Isaïe, les chapitres 56 plus exactement, à 66, les derniers chapitres. Et c'est la même tonalité, et même le texte de l'Apocalypse se fonde justement sur cette dernière partie du livre d'Isaïe. Nous rejoignons également l'épître aux Galates, dans la bonne raison, pour la bonne raison que nous retrouvons exactement ce qu'est la liberté chrétienne. Et évidemment, inutile presque de le dire, pour ceux qui suivent le séminaire des exercices spirituels, nous sommes en quatrième semaine, où l'élection, c'est-à-dire le choix de notre vie, s'éprouve dans la réalité quotidienne. Je pourrais mentionner également la manière dont saint Augustin, dans la Cité de Dieu, présente justement ce chapitre, dernier chapitre 21-22 de l'Apocalypse, où l'on parle des noces de l'agneau avec l'humanité symbolisée dans la ville de Jérusalem. Nous allons revoir cela un peu plus profondément tout à l'heure, quand nous aurons pris d'abord le chapitre 21e, qui se prolonge jusqu'au verset 5 du chapitre 22e. C'est ce qu'on appelle généralement la Nouvelle Jérusalem. Mais faisons bien attention, parce que l'auteur va nous parler de cette Nouvelle Jérusalem de trois manières différentes. Ce n'est pas une succession de trois plans, ce n'est pas l'évolution d'une histoire, ce sont trois manières, trois approches pour nous faire pénétrer dans ce qu'est au fond le but de notre existence humaine. Je lis d'abord le texte, puis je vis. C'est la septième des visions. Nous avons vu que le dernier septénaire comptait sept visions cette fois-ci. Ils sont introduites chaque fois par ce terme « et je vis ». Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ici, de nouveau, notre auteur emprunte à Isaïe au chapitre 25e, verset 8, il emprunte ce terme de « ciel nouveau et terre nouvelle ». Et donc, il fait allusion à ce qu'est la nouveauté. Nous allons voir ce qu'elle signifie, cette nouveauté. Mais enfin, un ciel nouveau, une terre nouvelle, donc c'est un nouveau monde, si vous voulez. Le premier ciel, en effet, et la première terre ont disparu. Et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples. » Souvent, on traduit comme on le fait d'habitude dans l'Ancien Testament, « ils seront son peuple et Dieu sera leur Dieu ». Mais ici, il y a un pluriel, et c'est important qu'il y ait un pluriel. Ça montre l'universalisme, l'ouverture du texte. Il aura sa demeure avec eux, vous avez entendu le refrain tout à l'heure. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Nous allons voir, il s'agit de la formule de l'Alliance. Mais je continue ma lecture. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Donc il y a un renouvellement total, nous dirions, de la création, du cosmos. Et dans cette création, ce cosmos, Jérusalem semble avoir une part importante. La cité sainte, Jérusalem nouvelle. Mais nous voyons que cette Jérusalem descend du ciel. Je vous ai donné, j'ai eu un peu plus de temps la semaine passée, et je vous ai donné le résumé d'aujourd'hui. Et je peux bien sûr m'y référer. Cette vision, comme je le dis là, présente l'accomplissement du dessein de Dieu. Et l'accomplissement du dessein de Dieu, nous le mettons toujours à la fin. C'est pour ça qu'on croit que cela nous révèle ce que sera la fin du monde. Non. Il s'agit de notre monde d'aujourd'hui, mais qui devient nouveau. Donc il s'agit de la manière dont nous vivons les 1000 ans de la résurrection du Christ, le temps de l'Église et du monde d'aujourd'hui. Pour le judaïsme, cet accomplissement du royaume de Dieu, comme on l'appelait, avait deux moments, deux phases, si vous voulez. Le Messie allait venir et vivre avec les hommes pendant un certain temps et instaurer la paix, la justice, le droit parmi les hommes. Et puis, quand il aurait installé la paix parmi les hommes, deuxième phase, tout le monde, toute l'humanité remonterait vers le ciel. C'est ce qu'il appelle le royaume de Dieu, le royaume de Dieu sur terre, puis le royaume des cieux, c'est-à-dire la deuxième vague. Mais l'Apocalypse ne parle pas exactement de cette manière-là. Ici, la Jérusalem descend du ciel. Nous verrons tout à l'heure ce que ça signifie. Elle descend du ciel pour révéler que la justice et la paix sont à vivre parmi les hommes et que les hommes en sont les collaborateurs. Et donc, ces trois phases successives, qui ne sont pas successives, mais ces trois phases qui sont trois approches différentes, vont nous dire qu'un monde nouveau commence, qu'une alliance nouvelle, alliance signifie relation avec Dieu, et qu'un nouveau paradis est en route. Et il reprend, l'auteur de l'Apocalypse, une partie du chapitre 65 d'Isaïe, comme je vous le signalais tout à l'heure, et la finale du livre d'Ézéchiel. Je vous prends quand même une partie de ce chapitre 65 d'Isaïe. Voici ce qu'il lui dit, ce qu'il nous dit. C'est au chapitre 65 d'Isaïe, au verset 17, je prends au verset 17. « Car je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. » Vous voyez d'où viennent les termes. « Et on ne se souviendra plus du passé qui ne remontera plus au cœur. Qu'on soit dans la jubilation et qu'on se réjouisse de siècle en siècle de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem joie et son peuple allégresse. Donc je vais transformer cette réalité humaine. Je me réjouirai de Jérusalem, je serai joyeux de mon peuple, il y a moyen de réjouir Dieu, comme vous le voyez. On n'y entendra plus désormais le bruit des larmes et le son des cris. Là, plus de nouveau-nés qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent son temps. Mourir à 100 ans, ce sera mourir jeune. Et ne pas atteindre 100 ans sera signe de malédiction. Oui, nous avons le texte des visions qui est toujours un petit peu dithyrambique, qui exagère. Ils bâtiront des maisons et ils y habiteront. Ils planteront des vignes dont ils mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus pour l'habitation d'un autre et ne planteront plus pour la consommation d'un autre. Car la durée de mon peuple sera telle que la durée des arbres. Et mes élus useront ce que leurs mains auront fabriqué. Ils ne peineront plus en vain, ils n'auront plus d'enfants destinés à leur perte, car ils seront une race bénie du Seigneur, ainsi que leur descendance. Donc déjà le texte d'Isaïe nous parle d'une nouveauté. Qu'est-ce que c'est que la nouveauté dans la Bible ? On parle souvent de champs nouveaux ou de réalités nouvelles. Et ce que nous vivons, ce sont des réalités anciennes. Ça s'est toujours vécu comme cela. Quand on parle de nouveauté, cela veut dire que nous avons la perspective verticale. La nouveauté, c'est Dieu. Dieu est toujours nouveau pour nous. Il nous surprend toujours parce qu'il est plus grand que nous. Et donc, quand on parle de nouveauté, on veut parler de cette présence de Dieu dans la réalité humaine. Déjà, le prophète Isaïe faisait cela. Et donc, il ne faut pas s'étonner que que Jean reprenne ce langage. Donc, bref, ce sont trois manières de dire une seule et même réalité. La fin, c'est la présence définitive, le mot définitif vient de fin, définitive de Dieu aux hommes. C'est la réalité essentielle. L'auteur invite le lecteur à ouvrir les yeux, une espérance sous trois images superposées. Bien sûr, c'est un artifice littéraire pour dire l'indicible dans un langage humain qui est toujours un peu limité. Et donc, nous avons d'abord ce monde nouveau. Il s'agit d'une création nouvelle. C'est pour ça qu'elle descend du ciel, cette Jérusalem-là. Et vous voyez que le terme est le terme d'une ville. Nous réfléchirons sur la ville tout à l'heure. C'est important. Déjà au chapitre 54e d'Isaïe, et il reprend au chapitre 60e, nous avons une reprise de l'union de Dieu avec la réalité humaine. L'alliance, ce sont les noces de Dieu avec l'humanité entière. Et cette humanité, nous le savons, nous l'avons vu maintes fois, cette humanité est toujours personnifiée dans une personnalisation féminine. Et en Isaïe déjà, nous assistions à la transformation de la femme infidèle et prostituée en mère heureuse et féconde grâce au sacrifice du serviteur souffrant, au chapitre 53e. Et juste au chapitre 54e, ce serviteur souffrant transfigure justement son épouse, l'humanité. Mais ici, elle descend du ciel. Et elle est comme une femme qui est parée pour son époux au jour de ses noces. Et nous allons voir que dans cette création renouvelée, en quelque sorte, le temple véritable, c'est la présence de Dieu. Comme au jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu qui se promenait dans le jardin, qui était au cœur de ce jardin. Mais nous étions encore dans un jardin. Qui dit jardin, dit un peu campagne. Et il y a toute une évolution qui se fait entre le jardin ou la campagne et la ville. La ville qui regroupe les habitants et qui doit normalement en faire toute une communauté. Et voici que cette présence de Dieu au milieu de son peuple devient demeure. Demeure, le terme qui est utilisé en grec, c'est skene, c'est-à-dire une tente. Une tente, c'est une demeure qui n'est pas fixe, mais elle correspond, dans une racine un peu semblable, qui sonne de la même manière en hébreu, où shachan signifie habiter. Une demeure de Dieu, c'est la shkina. La shkina, c'est la présence de Dieu, dans son temple, la présence de Dieu immanente en quelque sorte au peuple. Donc, présence de Dieu avec les hommes et qui vient effacer toute larme et toute mort. La mort ne fait plus peur. La mort est union à Dieu. Et je vous ai noté déjà au verset 3, ses peuples et non plus son peuple. Nous voyons que le terme qui était utilisé de préférence pour le peuple d'Israël, Am, qui n'est pas une autre réalité, les Goïm, qui a une autre sonorité, ce sont les païens généralement, tandis que Am est le nom qui est préféré, comme privilégié pour dire le peuple, Laos en grec. Et ici, on utilise maintenant le mot peuple au pluriel, comme si cette présence de Dieu à son peuple s'était multipliée pour chaque nation du monde. Donc il s'agit d'un accomplissement. Et nous retrouvons ici aussi le deuxième, sans effet, Gégolan. Tout ce qui a trait à l'idolâtrie disparaît absolument. C'est la logique de la destruction dépotoir central dont je vous parlais tout à l'heure. Et celui qui a soif peut boire gratuitement à la source d'eau vive. Mais nous savons par l'évangile de Jean que cette source d'eau vive, c'est le côté transpercé de Jésus, au chapitre 19e de l'évangile de Jean, comme c'était déjà annoncé dans l'évangile de Jean lui-même, au chapitre 7e, versets 37 à 39. Celui qui vient à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi. Donc, monde nouveau, cieux nouveaux, terre nouvelle. Mais on va maintenant développer cette image de la cité dans sa personnalisation féminine. Alors, celui qui siège sur le trône, je continue au verset 5, déclara, « Voici que je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta et écrit, « Ces paroles sont certaines et vraies, c'en est fait, me dit-il, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. » Au milieu du jardin d'Éden, il y avait un fleuve de vie qui se développait en quatre branches. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Je vous l'ai déjà dit, je pense, cette parole, c'est la parole de la reconnaissance que le papa doit faire de son enfant, qu'il soit son enfant naturel ou non, c'est la parole d'adoption. Quand l'enfant est né, il le prend sur ses genoux et il lui dit « Tu es mon fils et je suis ton père ». Et cela, c'est la parole qui fait vraiment que le père peut adopter cet enfant. L'enregistrement à la maison communale est beaucoup moins important que cette réalité-là dans le judaïsme. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Donc dans ce monde nouveau, il n'y a plus place pour tout ce qui est idolâtrie. Parce que la présence de Dieu est reconnue en son centre comme ce qui fait vivre. Donc ça, c'était la première vision, le monde de nouveau, comme une création nouvelle. Et puis maintenant, il va développer ce thème de la Jérusalem messianique dans cette métaphore féminine. Alors, l'un de sept anges, ou cette coupe, remplie des sept derniers fléaux, s'en vint me dire. Donc, si c'est un des anges qui ont présidé aux différents fléaux, c'est qu'il connaît bien la réalité de l'histoire. Cette réalité de l'histoire, dont le chiffre est 7. 3 qui est le chiffre de l'homme et 4 qui est le chiffre du monde. C'est l'homme dans le monde, c'est ça l'histoire. Et donc ce septième ange vient dire quelque chose d'important. Viens que je te montre l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Ceci est une reprise de deux livres, chapitre 60e du livre d'Isaïe, d'une part, vous retrouvez cette Jérusalem transformée, dans un personnage féminin, bien sûr, et c'est aussi une vision qui est reprise au chapitre 40e du livre d'Ézéchiel. Vous savez, les derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, de 40 à 48, c'est la description de la ville future de Jérusalem, une sorte de Jérusalem mythique, idéalisée, bien entendu. Et c'est justement cela que le texte de Saint Jean reprend. Cette vision finale d'Ézéchiel, et le nom de la ville, c'est ainsi que le livre d'Ézéchiel se termine, et le nom de la ville sera « Le Seigneur est là ». Présence du Seigneur. Mais je lis quand même le passage jusqu'au bout du chapitre 21e, si vous le voulez bien, avant de reprendre le détail. Donc la gloire de Dieu, La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de son amour. Et la gloire de Dieu est en elle, dans cette ville de Jérusalem. Donc c'est une ville où on vit de la présence de Dieu, comme un grand couvent, si vous voulez. Elle resplendit autant qu'une pierre des plus précieuses, comme du jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. On se demande pourquoi il a déjà dit 12, pourquoi il détaille comme ça. Ah, c'est que si nous lisons le livre des Nombres, c'est-à-dire le livre où les Hébreux voyagent à travers le désert, il y a une situation du camp avec place pour les différentes tribus. Et il reprend simplement ici ces places bien marquées pour les différentes tribus. C'est comme une sorte d'ordre parfait parmi les 12 tribus d'Israël. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacune le nom des 12 apôtres de l'agneau. Et nous avons les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de l'agneau. Donc, toute la réalité Ancien et Nouveau Testament ensemble, mais groupée autour de l'agneau qui en fait l'unité. C'est une seule et même histoire, qui est l'histoire de Dieu dans la création et maintenant dans son peuple. On voit bien les symboles. Celui qui me parlait tenait un roseau gradué en or pour mesurer la ville avec ses portes et son rempart. Cette ville dessine un carré, c'est plus exactement un cube, parce que sa longueur égale sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades, 2 000 kilomètres. Une ville de 2 000 kilomètres de côté. Et la hauteur, nous allons le voir. Longueur, largeur et hauteur, ils sont égales. Vous voyez, un cube de 2 000 kilomètres, ça va loin. Puis, il en mesura le rempart, soit 144 coudées. Lui, il n'y a que 65 à 70 mètres de hauteur. Et c'est une manière de dire. Pourquoi un cube précisément? Mais parce que le Saint des Saints dans le temple d'Israël avait précisément l'espace d'un cube. Un cube où habitait la présence du Seigneur, la gloire du Seigneur, comme on l'appelle, comme le livre d'Ézéchiel l'appelle constamment, la gloire du Seigneur. Et donc, nous retrouvons une sorte de ville de Jérusalem idéalisée avec un temple idéalisé, si on veut. Mais parce que c'est la ville qui mesure ses 2000 kilomètres de largeur, de longueur et de hauteur, tandis que le rempart n'a que 75 ou 65 à 70 mètres de haut. Mais pourquoi il mesure? Qu'est-ce que c'est que mesurer? Si vous achetez un champ, et si vous voulez savoir si on vous floue ou non, le mieux c'est de le mesurer. Il n'y a rien à faire. Mesurer, c'est prendre possession. Je sais ce que je possède. Vous faites, quand vous achetez ou quand vous venez habiter dans un appartement, mais vous faites l'état des lieux, c'est la même chose. Vous en prenez possession. Ce rempart est construit en jaspe, et la ville est de l'or fin, comme du verre bien pur. Les assises de ces remparts sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Alors, si vous voulez savoir ce que ce sont, ces pierres précieuses, allez voir au chapitre 28e de l'Exode, au verset 17 à 20, et au chapitre 39, où on reprend cette description. Et il s'agit des pierres précieuses qui symbolisent les 12 tribus d'Israël et que le grand prêtre porte sur son pectoral. Une plaque hein, où étaient incrustées ces 12 pierres précieuses de couleurs différentes et qui symbolisaient chacune une des tribus d'Israël. Il portait toujours sur sa poitrine, sur son cœur en quelque sorte, il portait toujours hein, symboliquement les 12 tribus. Donc cette ville, c'est vraiment la réalité des 12 tribus dans laquelle Dieu est présent. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un symbole sacerdotal ici. Car nous allons le voir tout de suite. Ceux qui habitent cette cité sainte Jérusalem sont prêtres pour l'humanité entière. Ils connaissent le vrai Dieu et précisément le rôle ou la fonction sacerdotale, c'est de faire le lien entre Dieu et les hommes et l'humanité. Hein, le juif dira hein, que sa vocation, c'est vraiment le Kiddush Hashem, la sanctification du nom, de dire pour toute l'humanité qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y en a pas plusieurs. De temple, je n'en vis point en elle. Ah, et ben voilà que le temple a disparu. C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple. Le véritable temple, ce n'est pas une maison faite de main d'homme. Le véritable temple, c'est la présence de Dieu en chacun de nous, la présence de Dieu dans l'humanité et dans chaque membre de cette humanité. Le Dieu maître de tout est son temple, ainsi que l'agneau. Vous voyez que l'agneau est toujours inséparable de cette présence divine. Elle peut se passer dans l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée. Cette ville n'a plus besoin hein, de jour et de nuit, car la lumière qu'est Dieu, est sans cesse présente. Et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui porter leur trésor. C'est une ville ouverte et toute l'humanité peut y pénétrer. Donc il va falloir nous demander ce qu'elle est. Ses portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura pas de nuit, et l'on viendra lui porter les trésors et les fastes des nations. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ah ouais, le livre de vie de l'agneau. Nous avons déjà vu hein, ces gens qui étaient inscrits dans le livre, et il s'agissait généralement des égorgés de l'agneau, hein, ou bien de cette foule immense qui l'entourait, des témoins de cette présence divine. Donc, il s'agit vraiment d'une image double, comme vous voyez. C'est une femme qui est présentée à son époux. Et cette femme, en même temps, est une ville. La femme dit la personnalité et l'intimité de la présence de chacun à Dieu et de l'amour qui peuvent vivre ensemble, ce sont des noces. Et en même temps, c'est une ville, ce qui symbolise justement la multiplicité et même, par petites touches, l'universalité. Union de Dieu avec l'humanité dans une alliance incompréhensible. Comment l'infini peut-il se joindre dans l'amour au fini? Et comment cette ville, qui est aussi une femme, comment cette ville peut être hospitalière de l'humanité entière? Parce qu'elle devient vraiment présence de Dieu. présence de Dieu. Et ceci est du nouveau, parce que la présence de Dieu apparaissait bien sûr comme le tout autre, la sainte, le saint, le très haut, celui que nous appelons le transcendant. Pourtant, déjà, dans tout l'Ancien Testament, cette transcendance de Dieu était en quelque sorte présente dans son peuple, par sa parole précisément, par une parole qui est active, cette parole qui est exprimée par la Torah. La Torah qui est, dans la mentalité d'Israël, qui est la matrice d'Israël. On joue sur deux racines, la racine Yara qui veut dire tirer une flèche, donner un enseignement. Un enseignement, c'est comme une flèche qui vous transperce. Et Hara qui signifie être enceinte. Et donc on passe de Hara, de Yara, enseignement, Torah, à Hara qui signifie donc être enceinte. Et on dit la Torah est la matrice d'Israël. C'est le Verbe de Dieu qui vous façonne. C'est sa parole qui vous crée. Et donc il était déjà présent. Il était présent dans la sagesse. Parole, la parole des prophètes, la sagesse. Et maintenant, il est présent comme dans une réalité immédiate, dans une présence, sensible. Dieu et l'agneau. Et l'agneau, l'agneau fait toujours allusion à l'agneau immolé et debout, vivant. Donc voilà la nouvelle épouse, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle alliance. Et voyez comment les deux images se compénètrent, la femme et la ville. Nous reviendrons tout de suite là-dessus. Mais je termine la troisième vision. Puis l'ange me montra. C'est une même vision, mais l'ange montre trois choses différentes qui expriment différentes approches, comme je vous le disais tout à l'heure. L'ange me montra le fleuve de vie. Ah, voilà que la source de Jérusalem est devenue un fleuve de vie. Il n'y avait qu'une source à Jérusalem. Le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Et ici, il a été puisé aussi son inspiration dans le livre d'Ézéchiel, avant-dernier chapitre, chapitre 47e, où Ézéchiel voit une source qui jaillit près du temple de Jérusalem, tout près de l'autel. Et cette source grossit de plus en plus, et elle prend finalement les proportions d'un fleuve. Et ce fleuve descend dans la vallée du Cédron, et va rejoindre la mer Morte. C'est la Nouvelle Jérusalem. Et en descendant, justement, dans la vallée du Cédron, qui est en grande partie salée, surtout tout près de la mer Morte, eh bien, les eaux s'assainissent. Eh bien, c'est cette vision qu'il reprend. Le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place, de part et d'autre, du fleuve, comme si le fleuve, maintenant, c'est comme si la ville devenait un fleuve, au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie. Il n'y en a plus un seul, comme dans le paradis, mais il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois. Donc ça, c'était tout à fait étonnant, mais c'est de nouveau le symbolisme du 12 qui vient ici, et on se demande si les différents arbres de vie, ça ne pourrait pas signifier aussi bien les 12 tribus d'Israël, ou bien chacun de ceux qui y vivent. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Une conversion est en quelque sorte promise. Les feuilles de ces arbres de vie peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville. Ben, il l'est déjà, il le sera. Passé, présent, avenir, c'est tout comme. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on ne peut voir Dieu que de dos, quand il est passé. Voir sa face, c'est un privilège de Moïse. Il le connaissait face à face. Et son nom sera sur leur front. Ils verront sa face. Donc ça dit l'immédiateté de la présence divine. Et son nom sera sur leur front. Allusion au baptême, vous comprenez. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer. Car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour les siècles des siècles. S'il n'y a plus de jour ou de nuit, est-ce qu'il y aura encore des siècles, hein? Mais il y a quelques petites incohérences comme ça, parce que les visions ne font pas une réalité logique. Vous avez vu les trois images. C'est un cosmos nouveau. C'est une création nouvelle. Terre et cieux sont nouveaux. Sont changés par cette présence de Dieu qui est au milieu de la création, de l'humanité. Puis ça devient une nouvelle alliance, une union nouvelle, une union qui n'est plus seulement symbolique, une union profonde, réelle, une présence de Dieu à l'homme. Et puis nous avons une sorte d'Éden retrouvé, de paradis. Et ce paradis, il tient parce qu'il y a une présence de Dieu au milieu de ce paradis. Et chacun peut aller à l'arbre de vie. Il n'y a plus d'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, puisque tout ça a disparu. Nous laisserons le reste, si vous le voulez bien, pour la fois prochaine. Parce que le reste demandera aussi une petite explication. Il va terminer le chapitre 22e par une sorte de liturgie que nous devrons expliquer davantage. Mais avant de venir là, interrogeons-nous quelque peu sur cette réalité, hein, d'une création qui est une ville et une ville qui est un paradis. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il faut pour cela que nous revenions au premier septénaire, à la fin du premier septénaire. Vous savez, c'était la lettre aux églises, et le dernier septénaire, c'était la lettre à l'église de Laodicée. Et on vous disait dans cette lettre, on vous disait, mais je vois que j'ai oublié un papier, mais je voudrais vous demander, ces deux-là, s'il vous plaît. Oui, celui-là, ça va, tu voyais bien. Mais vous saviez bien qu'à la fin, on vous disait que le Seigneur était à la porte et qu'il frappait. Et si on lui ouvre la porte, il entrera pour manger nous avec lui, lui avec nous. Eh bien, l'Apocalypse est construite sur ce repas promis et sur ce repas accompli ici, les noces de l'agneau. Et c'est pour ça que je vous ai donné à la page 30 ce beau passage de Paul Claudel. Parce qu'il nous dit, avec sa capacité poétique, de quoi il s'agit vraiment. En écoutant l'effroyable tempête qui secoue en ce moment toute la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce verset de l'Apocalypse. Une tempête. Et nous verrons que cette tempête, c'est aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Excesto ad ostium et pulso. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. En latin, pulso veut dire aussi je pousse. De quelle porte s'agit-il? Sinon de cette porte perdue au fond de notre âme, de cette porte marquée du sang de l'agneau, Exode, de cette mystérieuse porte orientale dont parle le prophète Ézéchiel, et par qui le seul sauveur des hommes est admis à passer. combien triste et injuste que cette porte soit fermée. Il s'agit de la porte qui est maintenant clôturée, close, la porte dorée, comme on l'appelle, à l'est de la ville de Jérusalem. Nous sommes comme un mauvais locataire qu'on garde par charité dans une maison qui ne lui appartient pas, qu'il n'a pas bâtie ni payée, et qui se barricade, et qui même pour un moment ne veut pas accueillir le maître légitime. Enfin, nous sommes tout seuls par une nuit de tempête dans notre maison solitaire et désolée, et tout à coup, on frappe. Ce n'est point la porte ordinaire, c'est cette vieille porte qu'on croyait condamnée pour toujours. Mais il n'y a pas à s'y tromper. On frappe. On a frappé. On a frappé en nous. Et cela nous fait mal. Comme l'enfant qui bouge dans une femme pour la première fois. Qui a frappé? Il n'y a pas à s'y tromper. C'est celui qui vient comme un voleur au milieu de la nuit. Celui dont il est écrit, « Voici que l'époux vient, sortez à sa rencontre. » Et nous écoutons, palpitant. Peut-être se battra-t-il contre la porte toute la nuit, comme parfois jusqu'au matin nous entendons ce volet exaspérant qui ne cesse d'arloquer et de battre. Mais c'est un tel ennui de se lever et de déclore cette vieille porte. Elle est assujettie de deux verrous qui ne font qu'un de ce qui est mobile et de ce qui est inerte. L'un s'appelle mauvaise habitude et l'autre mauvaise volonté. Quant à la serrure, c'est notre secret personnel. La clé est perdue. Il faudrait de l'huile pour la faire marcher. Et ensuite, qu'est-ce qui arriverait si on ouvrait la porte? La nuit, le grand vent primitif qui souffle sur les eaux, quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui ne nous permettrait plus d'être confortablement chez nous. Esprit de Dieu, n'entrez pas, je crains les courants d'air. Cependant, on a frappé. Et comment nous a-t-on frappé? Dans nos affections? Dans notre fortune, dans notre chair. Dieu ne frappe pas seulement, il pousse. Tantôt une poussée violente, une épreuve à fond de notre résistance, tantôt une pression insistante, gênante, continue. Il ne pousse pas seulement, il bat. Pulso, pulsation. Comme les artères douloureuses autour d'une meurtrissure. Il touche d'une de ces touches soudaines qui arrêtent le cœur. Ou simplement il se mêle à chacun des battements de ce cœur qu'il a fait et qu'il ne cesse de nous faire, de cette forge en nous qui ne cesse de frapper les sensations et les idées. Il ne cesse de nous ausculter. Et toujours, partout, il ne rencontre que cette paroi dure et inerte. Ah Seigneur, nous allons tâcher de vous ouvrir. Nous savons que cela vous fait du mal de nous frapper. Vous voyez que Claudel a compris. Il dit dans ses mots à lui, ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que nous venons de lire? Et quelle est la stratégie de l'auteur de l'Apocalypse, cette stratégie littéraire et spirituelle? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Vous voyez que dans toutes les images qu'il a mises devant nos yeux, il a comme créé un univers symbolique. Ces images, il ne fallait pas les prendre à la lettre. Il fallait les prendre dans ce qu'elles éveillaient en nous, comme ce Seigneur qui frappe à la porte, et qui émeut en nous quelque chose, et qui met en branle une réalité profonde en nous. Et il nous a créé comme cela tout un univers symbolique, où il y a des images de la nature, des images d'arbres, de pierres, de ciel, de terre. Il y a aussi des images animales qui symbolisent aussi cette animalité de l'homme. Il y a des images d'hommes également. Donc c'est une image qui symbolise en quelque sorte notre monde, notre civilisation, notre réalité. Et s'il nous met comme cela plein d'images dans les yeux, c'est pour réorienter la façon d'imaginer notre manière de vivre dans ce monde. Au fond, tout ce monde imagé, comme ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle, comme cette alliance nouvelle, comme cette Jérusalem qui descend du ciel, comme cet Éden renouvelé, tout cela, c'est vraiment le monde de la foi. C'est le monde où Dieu est roi, où Dieu est la lumière. Le monde qui tient, où il n'y a ni jour ni nuit. C'est ce monde intérieur, ce monde que nous vivons tous, si du moins nous le laissons entrer en nous, si nous ouvrons la porte. Et voyez, il parle à des gens qui sont dans la persécution. Et le persécuteur, c'est l'Empire romain. Et on vit cette persécution, on ne sait pas quand ça finira. Et on vit dans ce monde de Rome, avec au cœur une petite lumière qui est une présence de Dieu, de Jésus ressuscité, que l'on essaye de bien protéger pour que le vent ne l'éteigne pas. Nous vivons cela. Mais nous vivons aussi dans cette Babylone. Nous vivons aussi dans ce commerce, dans cette civilisation. Cette civilisation occidentale que nous avons construite et que nos anciens ont construite avant nous. Et nous sommes participants de ces deux communautés. Cette communauté extérieure, mais qui est quand même prostituée et perverse à certains égards, et qui nous mobilise, et qui nous met en esclavage, qu'on le veuille ou non. C'est le système dans lequel nous sommes, qu'il soit politique, social, économique, financier, peu importe. Et il fallait des images pour le dire. Et on a pris des images. Et on a pris Babylone ou Rome. Et puis, il fallait dire autre chose. Mais qu'il soit une ville quand même. Et qu'il soit comme une ville dans cette grande ville humaine. Et il s'agit de Jérusalem. Et Jérusalem qui a justement été détruite. Et Saint Jean écrit son Apocalypse après cette destruction de Jérusalem par les armées de Titus en 70. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Vivre dans Babylone et sortir de Babylone. Vivre la foi dans un monde où la foi ne règne pas. Vivre cette présence de Dieu avec cette fonction sacerdotale de témoigner de cette présence divine au monde. Voilà la réalité dont nous vivons. Ça ne dit rien du tout sur la fin du monde. Ça nous dit le monde et la finalité de ce monde dans lequel nous existons. Fuir la contagion de Babylone et percevoir de la civilisation romaine autre chose que ce qui est dit dans la propagande. Lire autre chose que nos journaux, voir autre chose que notre télévision, voir la réalité profonde et pouvoir la dire avec joie et dans la paix. Sortir de Babylone, mais habiter ce monde. Je ne vous retire pas de ce monde, disait Jésus à ses disciples à la veille de sa mort. Mais vous êtes là dans le monde. Je ne vous retire pas de ce monde. Mais vous n'êtes pas du monde. C'est la même réalité, mais dite autrement, avec des images. Et donc, on montre la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. On regarde la verticalité, mais elle descend du ciel au milieu de cette Rome ou de cette Babylone où nous vivons. Et son rayonnement, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire est, comme le disait dans son image, qui n'est pas étrangère à l'Apocalypse, Paul Claudel, c'est comme un enfant dont le cœur bat au creux du ventre de sa mère. Nous portons chacun cette présence divine en nous. Et nous vivons, si nous le voulons, cette réalité profonde, vitale, qui sont les noces de l'agneau. Voyez, nous avons là l'antidote à la vie extérieure. Et nous pouvons écouter cette vie extérieure, et nous pouvons écouter aussi cet antidote et en boire. C'est la source vitale dont on parlait dans la Jérusalem nouvelle. La Jérusalem nouvelle, c'est une image de la société idéale à laquelle il vaut la peine d'appartenir. Et donc, essayons de la construire. Notez que cette stratégie littéraire n'est pas absente de notre littérature profane. Car, lorsque vous voyez, et aujourd'hui on le voit bien, dans des romans comme Harry Potter, ou bien Le Seigneur des Anneaux, ou bien Vanya, dans des films comme cela, ou dit d'une autre façon, il y a une sorte de guerre contre, ou bien la guerre des étoiles, etc., vous voyez un petit peu, où il y a une sorte de guerre entre le bien et le mal. Ce sont toujours des abstraits. Ce n'est jamais tout à fait personnalisé. Bon, il y a bien sûr des personnes qui représentent tout cela, des hommes et des femmes. Et donc, c'est une technique que nous pouvons utiliser aussi et que nous utilisons. Technique du roman un petit peu merveilleux, du mythe. Mais la Jérusalem nouvelle a quelque chose de véritablement nouveau par rapport à cela. C'est la présence de Dieu, et cette présence de Dieu incarnée, humanisée dans la réalité humaine. Cette Jérusalem, finalement, c'est le lieu de la foi. Le lieu de la foi est un lieu de relation à la fois filiale et fraternelle. Filiale, présence de Dieu, et fraternelle. Et aussi des relations sponsales, c'est-à-dire conjugales, vécues avec Dieu. Et tous ensemble, dans un témoignage qui peut aller jusqu'au martyre, mais qui est nourri par l'adoration, la célébration, le service, l'ouverture au monde. La ville est ouverte, vous pouvez venir voir, transparence. Le lieu où la vraie liberté est vécue. Je n'ai plus peur de ce qui peut m'arriver, parce que j'ai cette conscience de cette présence divine que je porte en moi, en mon être, en mon corps. Et cette réalité de la liberté humaine ne fait plus de distinction entre ce qui est autonomie, c'est-à-dire ma réalité à moi, et théonomie, c'est-à-dire ce qui est la réalité de Dieu, parce que nous ne faisons plus qu'un. Les deux se recouvrent. Notre véritable liberté, c'est celle qui communie à la liberté divine, dans un amour qui peut être un amour du type conjugal, une compénétration au plus intime de notre être. Voilà ce dont parle l'Apocalypse. La Jérusalem, c'est à la fois un lieu spatio-temporel, c'est une réalité concrète. C'est une réalité d'éternité, parce qu'elle échappe à tout temps et à tout espace, et on le vit dans la fraternité. Et c'est un lieu de relation, à la fois relation personnelle avec Dieu et relation communautaire avec Dieu. Et donc il ne faudra pas nous étonner si la finale de l'Apocalypse, ce qui nous reste encore à voir la prochaine fois, si la finale est véritablement une Eucharistie. Nous allons redécouvrir, à partir du dernier chapitre, la réalité de l'Apocalypse et la réalité de l'Eucharistie. Et nous tirerons la dernière fois, nous tirerons quelques conclusions pour notre vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit de son actualité dans notre monde? Et vous verrez qu'il y a moyen de tirer de l'Apocalypse beaucoup de choses intéressantes, beaucoup plus importantes que de savoir ce qui pourrait se passer au moment d'une conflagration universelle. Merci.